sport, de moins sortir le soir, de manger plus sainement ou même de ne prendre aucune résolution. Mais acheter une voiture sans avoir essayé de Skoda, ça, on ne peut pas.
Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un minimum de 4000 euros d'équipement offert pour l'achat d'un véhicule neuf sur toute la gamme Skoda. Détails sur skoda.fr. Rendez-vous en concession pendant nos portes ouvertes ce week-end. Skoda. Pensez à covoiturer.
Il est 9h sur Europe 1, tout pile. Soyez les bienvenus.
Europe 1.
6h, 9h.
Alexis de la Fléchère.
Samedi 17 janvier et à 9h, c'est Pierre Vesque qui vous informe.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. Pour éviter la censure et pour pouvoir doter la France d'un budget, Sébastien Lecornu s'est exprimé hier soir à l'hôtel Matignon. Le Premier ministre a énuméré une série de mesures pour un budget présenté comme meilleur et responsable, assurant qu'il permettrait de réduire le déficit à 5% du PIB. Augmentation de 50 euros en moyenne de la prime d'activité pour plus de 3 millions de ménages à revenus modestes. Généralisation des repas universitaires à 1 euro. La fiscalité des ménages sera préservée. Le Premier ministre n'a pas précisé par quelle voie 49.3 ou ordonnance, il comptait procéder à l'adoption du texte. Signature aujourd'hui à 17h du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Après 25 ans de négociations, c'est la naissance de l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Plus de 700 millions de consommateurs, 31 pays dont la richesse cumulée représente 30% du PIB mondial. Cet accord mettra en place la suppression d'une large part des droits de douane. L'accord favorise les exportations européennes de voitures, de machines, de vin et de fromage. Dans le sens inverse, il facilite l'entrée en Europe de bœuf, de volaille, de sucre, de riz, de miel et de soja, avec des quotas de produits détaxés qui alarment les filières concernées. Nouveau cycle de discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron l'a ouvert hier. Le président de la République affirme vouloir avancer sans passage en force mais sans paralysie. Malgré l'absence du principal mouvement indépendantiste, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, rejette les accords de Bougival signés le 12 juillet dernier et qui prévoient, entre autres, la création d'un État calédonien au sein de la République doté d'une nationalité propre sans ouvrir une perspective de souveraineté pleine de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a ouvert ce nouveau dialogue pour apporter des clarifications. En Iran, après 3 semaines de protestations et beaucoup de voix continuent de s'élever pour que Donald Trump intervienne militairement en Iran pour chasser le régime des Mollahs, la tête du pays depuis 1979. Les pays du Golfe ont dissuadé le président américain d'intervenir directement, craignant un embrasement de la région. Sur place, les protestations sont toujours étouffées par une violente répression qui a fait plusieurs milliers de morts, selon des experts et des ONG. Emmanuel Razavi, franco-iranien, grand reporter et spécialiste de l'Iran, était l'invité d'Europe à matin. Il garde espoir quant à la possible chute du régime.
À l'heure où nous nous parlons, je pense que tout est ouvert. On ne peut pas dire qu'il va se passer, qu'un scénario va plus fonctionner que l'autre. Je pense que si la communauté internationale ne prend pas des positions, alors je comprends la France, on a 1000 ressortissants, je crois qu'ils sont à Téhéran, mais on doit accompagner, en tout cas par des mots, par des prises de position politiques, peut-être des prises de position juridiques aussi, ces jeunes Iraniens. Sinon,
mais vous y croyez, il peut tomber ce régime ces prochains jours.
Je pense que tout est réuni aujourd'hui, presque tout est réuni pour qu'il tombe, à la condition que les Occidentaux se mettent de la partie.
Emmanuel Razavi au micro d'Europe 1 matin week-end. Une interview à retrouver sur le site internet et l'application d'Europe 1.
Voilà, n'hésitez pas à aller sur l'application ou le site europe1.fr. La météo sur Europe 1 à 9h03.
La météo avec Avenir Rénovation. Votre partenaire confiance pour tous vos travaux. Avenir-rénovation.fr.
De la pluie, de la grisaille, si j'ai bien compris, Estelle.
Exactement, Alexis, excusez-moi, pour faire simple, c'est surtout sur le sud-est où il pleut beaucoup, hein, du côté des Cévennes, le département de l'Hérault sera placé dès 18h en vigilance orange pluie, inondation. On a aussi un petit peu de pluie en remontant, hein, jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et sur le sud-ouest. Sur les côtes, on a des éclaircies ce matin le long de l'Atlantique et de la Manche, avec quelques averses du côté sud-Bretagne et sur la Charente-Maritime. On a un petit coin d'éclaircies quand même le long de la frontière allemande. Et puis pour les températures, ce matin, comptez 4 à Guingamp, à Poitiers, à Tarbes et Mende. Vous avez 6 à Brive-la-Gaillarde, Beauvais et Vesoul. 8 à Paris, Nevers et Albi. 10 pour Bonifacio et Montpellier. Et on montera jusqu'à 13 à Bastia.
Merci Estelle. On vous retrouve avec un immense plaisir.
Tout à l'heure.
Dès demain dans Europe 1, matin, week-end. Et dans un instant, place à cette arrivée cette semaine avec Frédéric Taddeï. Belle matinée à tous sur Europe 1.
Europe 1.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390€ par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pensez à covoiturer.
Lidl, ça vaut le coup. Jusqu'à 40% de réduction sur la gamme de noix et fruits secs de la marque Alesto, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, profitez de jusqu'à 40% de réduction sur le deuxième produit de la marque Alesto avec Lidl Plus. Parfait pour faire le plein de fruits secs gourmands et de noix savoureuses. Lidl, ça vaut le coup. Offre valable jusqu'au 18 janvier sur une sélection de produits. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Cross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën C3 Cross est à partir de 199€ par mois.
Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Chez Maxizo, le bonheur d'un chien commence par un couchage à prix tout doux. Offrez-lui son cocon de confort avec le coussin en velours côtelé Fit & Fun taille S à seulement 7,99€. Rose ou beige, réversible, moelleux et facile à entretenir. C'est l'accessoire parfait pour des siestes réparatrices et à prix mini. Chez Maxizo, offrez-lui tout ce qu'il aime. Moins cher. Maxizo, élu marque préférée des Français, catégorie animalerie.
Oh, la reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi ?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6 000€ d'avantage client sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1 000€ de prime reprise déduite et 5 000€ de remise. Offre à particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pensez à covoiturer.
9h, 10h. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon week-end. Le Groenland et l'Iran font la une de l'actualité. Deux pays où, pour des raisons différentes, Donald Trump menace d'intervenir militairement. Mais qu'est-ce qui alimente les pulsions impérialistes du président américain ? On va voir ça tout de suite avec Mathieu Boccoté. Et pourquoi y a-t-il une pénurie d'œufs dans les supermarchés alors que la France est le premier producteur en Europe ? Alice Richard, la directrice de l'interprofession française des œufs, va nous l'expliquer. Et quel lien y a-t-il entre les choix électoraux des Français et leur niveau de vie ou leur implantation géographique ? On va poser la question à Youssef Souidi, qui publie une nouvelle cartographie électorale de la France. Mathieu Boccoté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur des Deux Occidents aux éditions de la Cité sur la fracture entre l'Amérique trumpienne et l'Europe progressiste. Cette fracture s'élargit encore depuis les menaces du président américain sur le Groenland. Comment comprenez-vous sa détermination pour s'emparer d'une île appartenant au Danemark ?
Alors, je pense que les Américains, on le voit avec Donald Trump, renouent avec une logique impériale classique qui appartient à leur histoire, mais qui n'était plus au cœur de leur politique étrangère depuis, on pourrait dire, depuis Wilson au moins. Alors, je m'explique. Trump n'a jamais été, quoi qu'on en dise, un isolationniste. On interprétait un peu rapidement son America First en Europe. Dans les faits, ce n'était pas un isolationniste, c'était une forme de nationaliste impérial qui considérait que l'Amérique devait se retirer des organisations internationales qui entravaient sa souveraineté, qui considéraient que l'Amérique devait défendre ses intérêts frontalement et même brutalement s'il le faut lorsque nécessaire. Mais là où il y a une part de nouveauté qui n'était pas prévisible mais qui est intelligible, c'est justement que la question du Groenland, c'est le retour d'une forme de souveraineté d'hégémone américain qui s'exercerait à la grandeur des Amériques, le fameux retour de la doctrine Monroe dont tout le monde parle ces temps-ci, dont je parlais aussi dans le livre d'ailleurs. Donc cette idée que l'Amérique est une forme de souveraineté impériale, les États-Unis sont une souveraineté impériale en Amérique, du Groenland à la Terre de Feu, et plus encore quand c'est proche de chez eux. Et dans le cas du Groenland, c'est le retour, je pense, ça correspond à la psychologie de Donald Trump, c'est le retour à une forme de logique impériale classique. La volonté d'étendre son territoire, la volonté de planter son drapeau. C'est simplement qu'au 19e siècle, les États-Unis étaient sur le mode « go west », c'est-à-dire étendre le pays jusqu'au Pacifique. On est dans un contexte nouveau où la logique de l'expansion va plutôt vers le nord. Donc, il y a eu les velléités par rapport au Canada que je n'ai jamais pris trop au sérieux, que je ne prends pas trop au sérieux. Mais par rapport au Groenland, eh bien, il y a cette idée qu'il est légitime de s'en emparer puisque c'est dans leur zone d'influence. Et il y a une chose à ajouter là-dedans, l'argument avancé par Stephen Miller, qui est un peu le Patrick Buisson de Donald Trump, si on veut une comparaison. Stephen Miller dit, pourquoi cette colonie européenne devrait-elle, parlant du Groenland, demeurer sous souveraineté européenne alors qu'elle est désormais dans notre champ, dans notre hémisphère, comme on dit au département d'État. Donc mettez tout ça ensemble, expansionnisme classique, logique impériale ramenée sur le territoire, sur l'espace américain, psychologie propre au président américain qui veut étendre la carte de son pays, vous avez les éléments de ce choc autour du Groenland.
Alors vous avez raison, il n'est pas le premier président américain à vouloir acheter le Groenland. Hein. Le problème, c'est qu'il n'accepte pas qu'on lui dise que le Groenland n'est pas à vendre et qu'il menace le Danemark, son allié au sein de l'OTAN, et tous ceux qui pourraient se ranger aux côtés du Danemark. Hein.
Ah oui, non, mais il va très loin d'ailleurs. Il dit, ceux qui ne souhaitent pas, ne soutiendront pas ma politique sur le Groenland, eh bien, je leur imposerai, si on comprend que ça devient la méthode, je leur imposerai une politique tarifaire musclée. Donc, globalement, vous légitimez mon entreprise annexionniste au Groenland, ou alors vous devenez des ennemis de l'Amérique. Et c'est à ce moment qu'il y a un hubris propre à Trump, une forme de moment où vous savez, on n'est pas exactement devant la personnalité la plus modeste de l'histoire occidentale. Et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On est devant une espèce d'ambition conquérante, impériale, à laquelle, pour l'instant, rien ne résiste. Et le propre de cette hubris, c'est plus que rien ne lui résiste. Il se dit que même ça devrait lui appartenir. Mais si l'Amérique renoue avec une conquête impériale classique qui consiste à s'emparer de la souveraineté, d'exercer sa souveraineté sur le territoire d'un ami, on change. Bon, premièrement, je dirais, c'est la mort de l'OTAN, pratiquement. C'est un détail dans cette histoire-là, mais c'est l'Amérique qui considère que désormais, elle n'a que des vassaux en Europe, le reste ne compte plus. Et de l'autre côté, le résidu de relation de confiance qu'il pouvait demeurer entre l'Amérique et l'Europe occidentale se désagrégera sous nos yeux. Et de ce point de vue, il y a une dimension révolutionnaire dans cette ambition de conquête. C'est-à-dire l'Amérique ne se contente plus d'exercer son pouvoir sur le mode de l'influence, sur le mode indirect, sur le mode du changement de régime, comme elle l'a fait souvent. Les États-Unis, dès lors, disent « ce territoire m'appartient ». Ça, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps.
Êtes-vous sûr que ça signifierait la mort de l'OTAN? Parce que c'est vrai que Donald Trump, dans une interview au New York Times, si je me souviens bien, a dit qu'il faudrait peut-être choisir entre le Groenland et l'OTAN, mais il ne pensait pas à lui. Il pensait à nous les Européens.
Oui, oui.
Pensez-vous vraiment que les Européens, alors qu'on se retrouve face à la Russie aujourd'hui, vont renoncer à la protection des Américains? C'est un peu comme si on demandait aux Allemands ou aux Polonais de mourir pour la Polynésie française.
Ah non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que demain matin, l'OTAN meurt devant nous formellement. Je dis que ce qui restait d'esprit de l'OTAN, appelons ça comme ça, c'est-à-dire l'idée d'une forme de patriotisme civilisationnel transatlantique, je pense qu'à ce moment-là, le résidu de lien de confiance n'existera plus. La question ukrainienne va demeurer, assurément, mais je pense qu'à terme, tous ceux qui rêvent, à tort ou à raison, d'une forme d'accélération d'Europe de la défense, vont se dire, bon, mais là, notre allié, finalement, est prêt à s'emparer de nos territoires lorsqu'il le croit nécessaire. Donc, j'ai l'impression qu'on a, à ce moment-là, on va acter, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, la vraie mort cérébrale de l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'elle meurt demain matin, pratiquement. Ça veut dire que l'institution devient cérébralement morte à ce moment. Les Européens consentant, mais j'y reviens, c'est quand même fondamental. Dans la psychologie post-1945, la concession de territoire, la conquête territoriale n'appartient plus du tout à l'imaginaire des démocraties. Ensuite, il y a toujours eu des nuances là-dedans. Il y a toujours eu la contradiction, par exemple, d'un côté le droit des peuples à l'autodétermination, de l'autre côté l'intégrité territoriale des États qui était sacralisée. Et il arrive que des principes se confrontent. Mais là, on est dans une autre logique. On est dans une logique de conquête, d'annexion classique. Et de ce point de vue, je ne vois pas ce qui, à moyen terme, pourrait tenir.
On fait une pause, Mathieu Bock-Côté. On y revient tout de suite après.
9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
Toyota.
toi aussi franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota Ego Cross Dynamique LLD 37-30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama.
Vous n'êtes pas sur le chantier, Arnaud ?
Oula, non Cerise, je viens de raccrocher avec un conseiller pour les sinistres de mon entreprise de plomberie et là, je dois en appeler un autre pour l'assurance scolaire de ma fille.
Ça en fait des appels pour être un bon père et un bon patron.
Ah ouais, je mélange tout. Je vais finir par prendre une assurance scolaire à un de mes employés si ça continue.
Rassurez-vous, Groupama est là. Votre conseiller unique gère vos contrats pro et perso avec une vision globale de votre situation.
Oh, ça va me changer la vie, Cerise.
Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut faire confiance à plus de 900 000 conducteurs de Dacia Sandero en France. Voiture la plus vendue aux particuliers, découvrez-la à partir de 13 290 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Disponible avec moteur, essence plus GPL boîte auto.
Offre réservée aux particuliers, valable du 1er au 31 janvier pour Dacia Sandero Essentiel SCE 65,9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr, source 3A data novembre 2025. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Grand frais.
Oui, c'est l'architecte. Dites pour les plans de votre maison, je peux pas. J'ai Grand frais. Ils ont des oranges à jus tellement sucrées. Je peux pas louper ça. C'est mon meilleur ami qui va faire vos plans. Il fait de la BD, donc il a un bon coup de crayon. Hein.
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les oranges à jus sont à 90 centimes le kilo. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Soit 2,70€ le filet de 3 kilos. Calibre 6-7, variété Naveline, catégorie 1, origine Espagne, traité après récolte.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant? DS Automobile présente DS3 DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 355 euros par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Pensez à covoiturer.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Mathieu Boccoté, l'auteur des Deux Occidents aux éditions de la Cité. La logique prédatrice à l'œuvre au Groenland de Donald Trump, il n'en est pas l'inventeur. Hein. C'est comme ça que l'Amérique est devenue la première puissance mondiale, non pas en fraternisant avec ses voisins, mais en multipliant les interventions militaires, plus de 400 en 250 ans d'existence, en achetant des territoires par la force, en renversant des gouvernements hostiles et en s'appropriant des ressources rares. Trump ne fait que suivre la tradition, mais lui ne l'habille pas de grands mots. La démocratie, les droits de l'homme ou la légitime défense. Il dit « Je suis le plus fort, j'en ai besoin », mais ça revient au même au fond.
Ça revient au même avec une nuance. C'est-à-dire, je suis d'accord que les États-Unis, historiquement, se sont construits en s'emparant de ce qu'ils croyaient être leur être vital. C'est l'argument du besoin vital appliqué sur le Groenland. Mais il y a quelque chose qui s'appelle, appelons ça le 20e siècle, c'est-à-dire la révolution wilsonienne. Donc Wilson s'engage dans la Première Guerre mondiale et sous le signe de la croisade démocratique et de la généralisation du droit des peuples, le principe des nationalités. Il y a aussi, dans tout au long du 20e siècle, la puissance américaine va de plus en plus s'exercer sous le signe de l'influence indirecte, du pouvoir, de la capacité d'intervention dans un pays. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, la puissance américaine s'est fait sentir tout au long du siècle. Mais il y avait néanmoins quelque chose de particulier. On avait renoncé aux États-Unis, globalement, à la logique de l'expansion territoriale. C'est-à-dire qu'on considérait que les frontières du pays étaient achevées. Et ça, je pense que c'était valable aussi dans l'ordre international. Quand on voit, par exemple, si on fait la comparaison, c'est la pousser un peu rapidement, mais quand la Russie dit « ce bout de territoire doit m'appartenir parce que des Russes y habitent », par exemple, la communauté internationale dit « un instant, il faut défendre les droits des Russes qui habitent ce territoire à vivre selon leur culture, leur langue, tout ce qu'on veut, mais ça n'implique pas le droit d'annexion pour la protection des populations de notre culture, des ethnic Russians, comme on dit, qui sont dans ce territoire ». Donc, il y a cette idée qu'il y a une forme d'intangibilité des frontières, ou à tout le moins qu'elles peuvent être remise en question qu'à travers un processus démocratique classique, donc globalement les référendums d'indépendance. Là, il y a quelque chose d'autre qui se passe ici, c'est qu'on sort de la logique de l'annexion, je dirais même de l'influence indirecte, on sort même, et c'est, je pense que c'est l'originalité trumpienne, de la logique de l'annexion commerciale. Parce que quand Trump dit « je veux acheter le territoire », bon, à la rigueur, il peut vouloir acheter le territoire, mais lorsqu'il dit la possibilité « je l'aurai d'une manière ou de l'autre » et l'intervention militaire n'est pas exclue, je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que la logique de l'intervention militaire entre alliés avec la logique d'annexion territoriale d'un territoire qui appartient à la souveraineté d'un autre, ça, je pense que, bon, évidemment, depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau. Depuis un siècle, c'est relativement nouveau. Et, j'ajoute une chose là-dedans, il y a une habilité américaine, parce qu'ils disent, pour l'instant, eh bien, le Groenland peut bien faire ce qu'il veut. S'il veut se détacher du Danemark pour se rattacher à nous, qu'il est en droit de le faire. Ce que disent, soit dit en passant, les Danois. Les Danois sont les premiers à dire que le Groenland appartient aux Groenlandais, et si le Groenland veut son indépendance, qu'ils la prennent. Que se passe-t-il si les Groenlandais disent, nous souhaitons plutôt l'annexion aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, mais que se passerait-il s'ils le souhaitaient? C'est là que la diplomatie trumpienne serait efficace, entre guillemets, parce qu'elle détacherait un bout de territoire d'un pays sous prétexte du droit d'autodétermination des peuples. Mais ça, c'est dans la logique de l'annexion consentie. Quand Trump ajoute la possibilité de l'annexion militaire, là, c'est là qu'on sort explicitement de tout ce qu'on tenait pour acquis depuis à peu près, j'allais dire un siècle, à tout le moins depuis 45.
L'autre grande révolution de Donald Trump sur la scène internationale, j'ai l'impression que c'est qu'il dit la vérité. Il veut le pétrole vénézuélien, il le prend, il ne prétend pas rétablir la démocratie au Venezuela, il veut le Groenland, il dit qu'il en a besoin et qu'il fera tout pour l'obtenir. Il ne raconte pas d'histoire, Trump, et s'il traite par-dessus la jambe ses alliés, c'est parce qu'il n'a aucune considération pour nous. Il nous considère comme des vassaux et il ne respecte que la force.
Ah, mais ça, je suis d'accord. Je pense que ça, c'est une marque propre du trumpisme. C'est-à-dire, il jouit de la vassalisation de ses alliés. C'est assez particulier. C'est-à-dire que, normalement, le plus puissant, en général, aime faire croire aux plus petits qu'ils sont égaux jusqu'à ce qu'ils doivent faire comprendre aux plus petits qu'ils ne le sont pas. Mais là, on est dans une autre logique. Il y a dans la psychologie trumpienne, et ça, je pense que ça touche la psychologie du personnage. C'est pas la doctrine. C'est-à-dire, si on est familier avec les différentes doctrines en politique étrangère dans la droite américaine, Le Groenland est un élément nouveau. Si on parle d'une intervention pour déloger, par exemple, au Venezuela, une figure qui est vue comme inquiétante, ça pouvait exister, mais cette idée qu'on va explicitement s'emparer du territoire sur le mode du protectorat, ça, c'est nouveau. Donc oui, il y a une complaisance pour les rapports de force dénudés chez Donald Trump. Ça, on doit le voir. Donc il y a une complaisance pour cette idée que nous allons jouir de la vérité pure du rapport de force. Ça, je crois que c'est propre à la psychologie du personnage, une psychologie un peu nietzschéenne, si on veut le dire avec des grands mots, une psychologie, certains diront tyrannique, je pense que la formule a ses limites, mais assurément une psychologie qui jouit du rapport de force et qui considère que tout ce qu'il cherchait, certes à le maquiller, mais aussi à le transcender par le droit qui n'est jamais un substitut à la force, mais qui cherchait à l'atténuer, eh bien, il jouit de cette espèce d'éclatement des fictions de l'ordre international. J'ajoute une chose là-dedans qui me semble importante. Il y avait une exaspération visible dans la droite américaine depuis longtemps par rapport à l'ordre international post-89, post-90. Une bonne partie de la droite américaine marquait son opposition à cet ordre depuis un bon moment. Mais Trump ne se contente pas de le contester, il restaure à certains égards la logique prédatrice propre au 19e siècle. Et avec le Venezuela, lorsqu'il dit exactement « vos ressources m'intéressent, on va faire un protectorat ». Et ça, donc c'est la restauration, j'appelle ça moi en ces temps-ci, une forme de retour à la logique archaïque du politique. Donc les rapports de force sont dévoilés, on voit dans d'autres pays du monde qu'une élite qui veut se maintenir à tout prix ne se cache plus pour annuler des élections s'il le faut, on voit en d'autres lieux du monde qu'on veut s'emparer du... je pense ici à la Chine par rapport à Taïwan, on légitime l'hypothèse d'une conquête de Taïwan. Donc un peu partout dans le monde, en fait, les illusions que certains souhaitaient que ne soient pas que des illusions propres à la construction d'un ordre international tout au long du 20e siècle, ces illusions se dissipent devant nous. Voilà pourquoi on parle de retour des empires, de retour de la puissance.
Mais alors, pardon de vous interrompre, mais il nous reste juste 30 secondes. Pourquoi hésite-t-il à intervenir en Iran ? Tout le monde l'applaudirait, il pourrait sauver les manifestants du massacre, mettre la main sur le pétrole iranien, ce qui serait beaucoup plus lucratif que le pétrole vénézuélien. Il pourrait ramener le fils du chat dans ses bagages. Après tout, ce sont les Américains qui ont remis son père au pouvoir en 1953. Qu'est-ce qui l'empêche de recommencer ?
Ce qu'on en comprend, c'est qu'il considérait que la situation est beaucoup plus explosive là-bas. Il y a un traumatisme quand même aux États-Unis, c'est le traumatisme du Proche-Orient. C'est-à-dire, s'il y a une chose qui est au cœur de la doctrine MAGA, c'est qu'ils ne veulent plus se mêler du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, sauf s'il s'agit d'une opération très ciblée de défense de leurs intérêts, donc une frappe chirurgicale. Mais l'idée de s'engager dans quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin au changement de régime, les Américains sont vaccinés par 2003 là-dessus, je crois.
Merci Mathieu Bocoté. Les deux Occident, votre dernier livre s'est paru aux éditions de la Cité. On fait une pause et on va se demander pourquoi il y a des pénuries d'œufs dans les grandes surfaces. Et chaque samedi, retrouvez Laurie Cheleva de 18h à 19h pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Aujourd'hui, Laurie reçoit le réalisateur Olivier Assayas pour son film Le Match du Kremlin en salle mercredi prochain avec Jude Law dans le rôle de Vladimir Poutine. Clap avec Laurie Cheleva, c'est chaque samedi de 18h à 19h sur Europe 1.
Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Si je te dis Dolce Vita.
Fiat.
Si je te dis pot de yaourt.
500.
Si je te dis branché.
Électrique.
Non, si je te dis branché.
Bah, 500.
Mieux, la nouvelle 500 hybride.
Évidemment 500, toujours branché, sans être branché.
Nouvelle Fiat 500 hybride à partir de 159€ par mois et garantie jusqu'à 8 ans. Portes ouvertes ce week-end. Pour 500 hybride pop LLD 49 mois 40 000 km, apport 2 800€ sous condition de reprise. Reprise éco-Fiat de 500€ déduite, c'est accord crédit par jusqu'au 31 janvier. Détaillez conditions sur fiat.fr. Fiat. Pensez à covoiturer.
En direct de chez Aldi pour les offres spéciales week-end avec messieurs les deux rôtis de porc Saint-Clément le boucher au prix discount de 7,69€ le kilo. Un commentaire ?
À deux rôtis de porc français à ce prix-là, on peut dire que c'est une affaire bien ficelée.
Et vous, monsieur le champignon, à 1,79€ la barquette de 400 grammes ?
À ce prix-là, le meilleur coin à champignons, c'est Aldi.
Merci et on vous retrouve en magasin jusqu'au dimanche 18 janvier.
À ce prix-là, nos produits peuvent se la raconter. Aldi, la meilleure qualité à prix discount.
4,48€ le kilo de champignons, deux rôtis d'environ 1,5 kg vendus en barquette. Origine et info sur aldi.fr.
Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 299€ par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990€. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz ?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter. Ouais,
ouais. Faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à Riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
On avait dit 2026, fini le superflu.
C'est le cas, Leap Motor T03 électrique.
Et la caméra de recul, le toit panoramique.
Et cette série, dès 139€ par mois et sans apport, pendant les portes ouvertes du 16 au 18 janvier.
Ah, waouh ! Citadine électrique T03, c'est ça la bonne résolution. Leap Motor, lancez-vous. LLD 36 mois, 30 000 km, prime Certinergie 360€ déduite pour une T03 neuve hors option. Réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit part. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Alice Richard, bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes ingénieure agronome et depuis 2023, vous êtes la directrice du CNPO, l'interprofession française des œufs. La production nationale est la première d'Europe, hein, 15,4 milliards d'œufs par an. Et pourtant, on parle de pénurie. Un peu partout, les rayons des grandes surfaces sont vides ou clairsemés. Comment l'expliquez-vous ?
Oui, bonjour. Alors tout à fait, nous on constate depuis maintenant plusieurs mois des tensions d'approvisionnement dans les rayons, ce qui peut en effet conduire à des ruptures ponctuelles dans les magasins. Et c'est simplement lié en fait à la hausse spectaculaire de la demande, donc de la consommation en œufs des Français, que l'on a constaté maintenant depuis 3 ans, qui a au terme de 5% de consommation en plus par an depuis 2023. Et finalement, cette consommation très dynamique, du côté de la production, on a du mal à suivre. Et on a du mal à répondre à l'appétit des Français en neuf.
C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il y a des ruptures de stock, mais là, c'est particulièrement prononcé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est les fêtes de Noël ? C'est la tempête ? C'est la neige ?
Alors, il faut savoir qu'il y a des temps forts un peu de consommation en neuf. La consommation n'est pas linéaire sur l'année. Par exemple, l'été, il y a un petit peu moins de consommation, on consomme moins d'œufs l'été. Mais en revanche, que ce soit novembre, décembre, début janvier, avec notamment la galette des rois, et puis plus généralement, toutes les fêtes traditionnelles sont des moments forts de consommation en œufs. Et donc, ça a en effet accentué un phénomène qui existait déjà. Ça a été combiné en plus par des difficultés d'approvisionnement. On peut citer la neige, le verglas, les conditions météo difficiles en général. Le blocage de certaines routes aux abords de Paris suite aux manifestations agricoles. Ce qui fait que finalement, ça a été très marqué en Ile-de-France, parce qu'en plus, en Ile-de-France, on a un gros bassin de consommation, mais on n'a pas de production quasiment.
Pourquoi est-ce qu'on mange de plus en plus d'œufs en France ?
Alors, on essaye de comprendre un peu ce phénomène. Alors, à l'origine, nous, on a commencé, comme je disais, à le constater en 2023. Et on pensait que c'était surtout lié à l'inflation. Parce qu'en 2023, on avait une inflation relativement forte. Et l'œuf étant la protéine animale la moins chère sur le marché, forcément, on voyait bien le lien entre contraction du pouvoir d'achat et hausse de la consommation. Et pourtant, malgré le recul de l'inflation par la suite, on voit que la consommation a poursuivi sur cette dynamique. Donc, pour nous, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. C'est le côté rapide, pratique, facile à cuisiner de l'œuf. Finalement, vous pouvez l'utiliser dans tout un tas de préparations. Vous pouvez le consommer aussi comme un plat en tant que tel, dans une omelette, des œufs à la coque, typiquement. Donc ça, ça rentre très bien dans les habitudes de consommation des Français qui, parfois, par exemple, le soir, en semaine, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour cuisiner. Et par ailleurs, on pense aussi que sur le plan nutritionnel, les messages des médecins nutritionnistes finissent par passer dans la population générale. On a longtemps associé l'œuf avec le cholestérol, le mauvais cholestérol. Et on voit que les nutritionnistes ont changé de discours maintenant depuis plusieurs années, hein, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et maintenant, l'œuf a un peu redoré son image sur le plan nutritionnel. On sait que c'est plein de vitamines, c'est plein d'acides aminés essentiels, donc de protéines. C'est peu calorique, mais en même temps, ça nourrit de manière assez longue. Donc, il y a plein de qualités nutritionnelles qui sont reconnues désormais pour l'œuf.
Alice Richard, vous l'avez dit, la production a du mal à suivre le rythme. Alors, pour quelle raison ? Est-ce qu'on manque de poules pour répondre à la demande ? Est-ce qu'on manque de poulaillers ?
Oui, tout à fait. Alors nous, on estime qu'il faudrait créer à peu près 300 nouveaux poulaillers à horizon 2030. Et ça, c'est simplement pour répondre à la hausse de la consommation qu'on a vue ces dernières années. On en manque et puis ça prend du temps. Et c'est là où on a une différence de dynamique. On a une consommation qui a évolué rapidement, si on peut dire, de manière assez conséquente. Et de l'autre côté, augmenter la production, ça prend du temps parce que installer un nouvel éleveur, c'est long. On estime que un porteur de projet, donc un nouvel éleveur qui souhaite s'installer entre le moment où il va concevoir son projet et le moment où il va produire ses premiers œufs, il faut à peu près 2 ans.
Mais pourquoi ? C'est la faute de l'administration ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des contraintes administratives, en effet, d'un point de vue réglementaire. Il y a des études à compléter, il y a des dossiers assez longs à monter. Il faut aussi obtenir un prêt auprès de la banque. Et ça prend du temps, parce que on a souvent des investissements quand même qui sont relativement importants. On estime, nous, à peu près, pour faire vivre une personne un temps plein, on va dire un éleveur à temps plein, construire un poulailler plein air, ça va lui coûter entre 1 million et 1 million 5. Donc ce sont des investissements très importants et forcément donc ça nécessite de monter des dossiers assez longs auprès des banques, de sécuriser ces financements. Et puis après, voilà, selon la taille de votre projet, vous avez aussi plus ou moins de démarches à mener pour le voir aboutir.
Mais j'avais entendu la ministre de l'Agriculture promettre, c'était mercredi dernier, un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030. Et je me suis dit, mais en quoi ça la concerne ? Un éleveur ne peut pas décider tout seul de construire un poulailler supplémentaire. Il a besoin de l'autorisation du ministère, qui lui-même, j'imagine, demande l'autorisation de Bruxelles ?
Alors, il faut d'abord, en fait, ça se passe surtout à des échelles plus locales, parce qu'il faut obtenir un permis de construire déjà. Et parfois, c'est déjà une étape qui est difficile à obtenir, parce que il y a des oppositions aussi en local, que ce soit par des associations ou par des riverains, qui, auprès du maire, peuvent essayer d'intervenir pour que le permis de construire ne soit pas délivré. Il y a nécessité d'obtenir des autorisations, en effet, auprès de l'État pour pouvoir avoir des animaux et avoir son élevage. On peut pas juste décider de le faire comme ça. Ça nécessite une autorisation de la part de l'État. Et donc, ce sont toutes ces démarches dans lesquelles, finalement, le ministère de l'Agriculture doit aussi prendre toute sa part pour faciliter et aussi raccourcir les délais entre le moment où l'éleveur se lance et le moment où il peut effectivement produire des œufs.
Et vous, l'interprofession française des œufs, là-dedans, vous faites pression ?
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de fixer un cap au sein de l'interprofession. En fait, on a tous les maillons de la filière qui sont représentés. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de maintenir, de donner un cap à la profession en disant voilà vers quoi on veut aller. Donc on a fixé deux objectifs, comme je disais, 300 nouveaux poulaillers à horizon 2030. Et aussi transformer, continuer la transformation des modes d'élevage, parce que c'est vrai que on a enclenché depuis déjà 10-15 ans une transformation des modes d'élevage vers des élevages alternatifs à la cage. Et donc nous, on a aussi fixé dans notre plan de filière l'ambition d'atteindre 90% de poules pondeuses élevées en système alternatif à la cage à horizon 2030. Donc nous, notre rôle là-dedans, ça va être de donner une impulsion, un cap, et puis, en effet, d'intervenir auprès du ministère de l'Agriculture pour que ces objectifs puissent être atteints.
Alors, c'est vrai qu'on supprime progressivement les cages hein, où les poules vivaient entassées au profit de l'élevage au sol, de l'élevage au plein air, ce qui nécessite plus de surface, et ça fait baisser mécaniquement le nombre de poules, non ?
C'est ça. En fait, quand on a un éleveur qui décide de transformer son bâtiment, donc son poulailler, d'un système cage vers un système sol ou plein air, par exemple, on estime qu'il perd à peu près, pour un poulailler donné, il va perdre à peu près 20% de son cheptel. Donc ça veut dire qu'à chaque transformation de poulailler, ça nécessite d'installer quelqu'un d'autre pour pouvoir compenser cette perte de production.
Et ça n'est pas le cas pour l'instant ?
Pour l'instant, alors on voit les premiers effets du plan qu'on a pu fixer, nous, en 2024. Donc comme ça prend un peu de temps, on va en voir les effets justement qu'en 2026. Mais on voit qu'il y a quand même une dynamique qui est lancée. Il y a beaucoup d'agriculteurs ou d'éleveurs qui s'intéressent à la filière œufs, qui nous contactent pour avoir un peu des renseignements. Et on estime, nous, que courant 2026, devrait y avoir une centaine de projets qui pourraient voir le jour. Ce qui permettrait, à partir du second semestre 2026, de voir ce phénomène de rupture ponctuelle s'atténuer.
Donc la situation pourrait redevenir normale à partir du deuxième semestre 2026. D'ici là, on risque de voir quand même des rayons clairsemés dans les grandes surfaces.
Tout à fait, on risque de revoir des rayons clairsemés de temps en temps, parce que comme on est vraiment à flux tendu, dès qu'il y a un petit grain de sable quelque part, alors que ce soit météo ou tout autre, ça a un impact visuellement, ça se voit très rapidement dans les rayons.
Alors moi, je mange des œufs tous les matins depuis très 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 longtemps et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on parle d'une pénurie d'œufs. C'est parce que j'ai la mémoire courte ou c'est véritablement la première fois qu'on se retrouve en France dans cette situation ?
Non, c'est vrai que cette hausse de la consommation et ce niveau de consommation, il est complètement inédit pour nous. On estime qu'en 2025, chaque Français a consommé à peu près 235 œufs. Et c'est vraiment un record. En comparaison, en 2024, on était à 226. Donc il y a quasiment en un an, plus 10 œufs par habitant. Ce qui pour nous est du sans précédent.
Merci pour toutes ces explications, Alice Richard, et bon courage pour la suite. J'imagine que tout le monde veut vous interviewer en ce moment.
en effet, on a beaucoup de demandes.
Et j'espère que ça s'arrangera au plus vite.
Merci.
On fait une pause et on s'intéresse à la nouvelle cartographie électorale de la France avec Youssef Souidi.
Europe 1,
9h. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Envie de confort, envie de choix, envie de grande marque, envie de Topair.
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les plus grandes marques de mobilier contemporain. Caligaris, Stressless, Imola, Neology, Ralph M, Mobilier de France, Duvivier. Canapé, canapé-lit, fauteuil de relaxation, table de repas, armoire-lit, dressing.
Espace Topair, 3000 m² pour toutes vos envies, 63 rue La Convention et 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, 7 jours sur 7. Topair.fr. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Chez Orange, on sait qu'après... C'est sympa de continuer sur cette lancée. Jusqu'au 21 janvier, profitez de promos sur une large sélection de téléphones Samsung, dont 520 euros d'économie sur le Galaxy S25 Ultra, sans forfait, sans engagement. Orange est là. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine. 420 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus reprise pour l'achat d'un Galaxy S25 Ultra. Conditions détaillées sur orange.fr.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter. Ouais,
faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à Riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Geneviève a 80 ans. Elle a passé quelques jours à l'hôpital après avoir glissé chez elle. Son mari Bernard organise son retour à la maison, mais il se perd dans les démarches complexes. Le lendemain, il fait appel à Petit-Fils pour l'aider. Rapidement, une auxiliaire de vie douce et expérimentée rejoint leur quotidien. Grâce à elle, Geneviève a retrouvé le confort de sa maison et ses petites habitudes. Quant à Bernard, il souffle enfin, rassuré de ne plus être seul pour prendre soin de sa femme.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Youssef Souidi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en économie et vous êtes l'auteur avec Thomas Van Der Scher d'une nouvelle cartographie électorale de la France chez Textuel. Pour comprendre les recompositions politiques d'aujourd'hui, vous ne vous contentez pas des sondages hein, qui se focalisent sur des échantillons certes représentatifs mais tout de même réduits de la population. Vous avez étudié les élections de ces dernières années et vous mettez en correspondance les résultats de chaque bureau de vote avec les caractéristiques sociales de leur quartier d'implantation. En quoi votre grille de lecture vous semble-t-elle plus fiable que celle des sondages ?
Alors, plutôt complémentaire, mais c'est une grille de lecture assez essentielle, puisque effectivement les sondages se basent sur, comme vous l'avez dit, des échantillons de quelques milliers de personnes, et en plus ils font face à une certaine crise de légitimité, on remet souvent en cause leurs résultats, donc c'est bien d'avoir une autre grille de lecture complémentaire pour voir si on a des résultats qui correspondent ou non. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va, plutôt qu'un échantillon de quelques milliers d'électeurs, on va regarder l'ensemble des bureaux de vote. Donc, il y en a à peu près 65-70 000 en France. Et pour chaque bureau de vote, on va regarder quel est le niveau de vie des personnes qui sont inscrites à ce bureau. Et ça nous permet, pour chaque bureau de vote, d'attribuer un niveau de vie moyen et de voir comment votent les plus pauvres, les plus riches, les personnes aux revenus intermédiaires.
Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez découvert ?
Plusieurs surprises. La première, c'est, on s'intéresse beaucoup aux dernières élections législatives, celle de 2024, où le RN et ses alliés apparaissaient comme en tête de toutes les catégories de revenus. En réalité, ce qu'on voit, c'est que chez les plus pauvres, là, c'est, alors déjà, c'est l'abstention qui est largement en tête. Si on raisonne en pourcent des inscrits, près de la moitié des plus pauvres n'ont pas voté aux dernières élections législatives de 2024. Ensuite, c'est parmi les partis, c'est le NFP qui arrive en tête avec à peu près 26% des inscrits, et ensuite le RN. Et l'autre, alors ça n'est pas une surprise, puisque notamment Thomas Piketty et Julia Cagé l'avaient montré dans leur livre il y a quelques années, l'autre surprise, c'est à quel point le vote pour la coalition présidentielle est croissant en fonction du niveau de vie. Pour le dire de manière assez caricaturale, chez les plus pauvres, à peu près personne ne vote pour la coalition présidentielle, tandis que chez les plus aisés, elle fait des scores assez importants.
Alors, est-ce que vous avez constaté une opposition entre la France des cités qui voterait massivement pour LFI et la France périphérique qui voterait massivement pour le RN ?
Alors, pour revenir à votre première question, l'un des avantages de cette approche, c'est qu'on peut se centrer particulièrement sur les bureaux de vote des quartiers populaires. Ça, c'est quelque chose que les sondages ne peuvent pas faire. Donc, on se centre sur les bureaux de vote des quartiers populaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? La première chose, encore une fois, l'abstention est massive. Ensuite, il est vrai que le NFP aux élections législatives de 2024 est arrivé largement en tête parmi les préférences politiques exprimées dans les quartiers populaires. Et si on s'intéresse plutôt à LFI, là on va regarder les élections européennes, où là les partis de gauche s'étaient présentés séparément. Il est vrai qu'entre 2019 et 2024, LFI a fait des progrès énormes dans les quartiers populaires. Ils sont passés de 4% des inscrits en 2019, aux européennes de 2019, à 13% en 2024. Donc c'est une forte hausse. Pour autant, on ne peut pas dire que les quartiers populaires sont massivement LFI. Ça n'est que 13%. C'est une autre manière de le voir.
Et est-ce que le RN trône dans la France périphérique, comme on le dit ?
Alors, c'est vrai de manière globale. Mais ensuite, l'autre chose qu'on essaie de montrer, c'est qu'il faut regarder cas par cas. Si vous prenez, par exemple, Fréjus, qui n'est pas une campagne, une ville d'une certaine taille, à Fréjus, vous avez beaucoup plus de votes RN que dans certaines campagnes de l'ouest de la France. Donc, il faut quand même, globalement, c'est vrai. C'est vrai que le RN a des scores plus importants dans les couronnes périurbaines, dans la ruralité. Pour autant, il faut quand même y mettre quelques nuances. Et notamment, oui, vous avez certaines communes principales qui ont des taux de vote pour le RN qui sont largement supérieurs à certaines campagnes.
La droite traditionnelle, les Républicains, les divers droites et la coalition présidentielle, séduisent-elles toutes deux un électorat favorisé ? Si oui, qu'est-ce qui les différencie ?
Alors effectivement, si vous prenez aux dernières élections législatives, les partis constitutifs de ce qu'on appelle le bloc central, donc droite traditionnelle, et coalition présidentielle, ils font à eux deux 8% des inscrits dans les bureaux de vote les plus pauvres, contre 38% des inscrits dans les bureaux de vote au niveau de vie le plus aisé. Donc effectivement, c'est un vote qui est fortement croissant avec le niveau de vie. Et qu'est-ce qui les différencie ? On va dire que la droite traditionnelle, elle a des fiefs dans lesquels elle a des scores assez importants. Mais en réalité, elle est rayée de la carte dans un certain nombre de territoires, mais elle a ses fiefs qui lui permettent de garder une certaine présence, notamment à l'Assemblée nationale.
Et au Sénat, par la même occasion.
Oui, encore plus au Sénat. Voilà. Au Sénat,
et les différents partis de gauche, est-ce qu'ils se disputent le même électorat ?
Eh bien, pas vraiment. Je vous disais tout à l'heure que le NFP faisait ses meilleurs scores d'abord chez les plus pauvres et ensuite chez les plus aisés. Mais il est assez probable, quand on regarde, par exemple, les élections européennes de 2024, où là, les différents partis se sont présentés séparément. Ce qu'on observe, c'est que LFI fait ses meilleurs scores chez les plus pauvres, et ensuite, plus le niveau de vie augmente, moins on a de votes pour LFI. À l'inverse, le vote Glucksmann, chez les plus pauvres, il est quasi inexistant, tandis qu'il est beaucoup plus fort chez les plus aisés. Et donc là, on voit un petit peu les contradictions qui peuvent exister, et notamment là, aujourd'hui, quand on voit le Parti Socialiste, qui soutient plutôt la coalition présidentielle. En réalité, quand on regarde en fonction du niveau de vie, ils ont à peu près le même électorat, dans le sens où plus on est aisé, plus on va voter pour ces partis, PS, coalition présidentielle, droite traditionnelle.
Et dans les cités de banlieue, majoritairement peuplées de personnes issues de l'immigration, est-ce qu'on votera plus facilement LFI, par exemple ?
Alors effectivement, aux élections européennes de 2024, c'était très clair, hein, LFI était largement en tête, mais le deuxième parti, il me semble, ça restait le RN, et largement devant le PS ou la coalition présidentielle.
On fait une pause, Youssef Souidi, on se retrouve tout de suite après, vous allez continuer de nous raconter cette nouvelle cartographie électorale de la France.
Ce week-end sur Europe 1.
Tout à l'heure de 11h à 13h,
Elliot Deval vous donne la parole dans Elliot Deval et vous.
De 16h à 17h, Sophie Davant vous raconte l'histoire d'amour extraordinaire
entre le chanteur mythique Freddie Mercury
et Marie Austin.
Et de 18h à 19h, Laurie Choleva accueille le réalisateur Olivier Assayas
pour le film Le Mage du Kremlin avec Jude Law en salle mercredi prochain.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Toyota.
Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons ? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota Ego Cross Dynamic LLD 37-30 000 km. Premier loyer 3 990€ réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
IKEA.
Tu peux me sortir le turbo du four ?
Prêt à partir en salle, chef ?
Mais qu'est-ce qui te prend ?
On dresse l'assiette, chef, et on envoie, chef !
Jusqu'au 15 février chez IKEA, pour l'achat d'une cuisine méthode de 2 000€ minimum, recevez 10% de sa valeur en bon d'achat avec la carte gratuite IKEA Family. Hors électroménager et services éventuels, voir conditions sur IKEA.fr.
Ouh, la reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi ?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6 000€ d'avantage client sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1 000€ de prime reprise déduite et 5 000€ de remise. Offre à particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test ?
Attendez.
Maman, t'as fait du poisson ?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le 3e est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390€ par mois sans apport. Réservez votre essai sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Youssef Souidi, il est docteur en économie et c'est l'auteur avec Thomas Van Der Scher d'une nouvelle cartographie électorale de la France chez Textuel, basée donc sur les résultats des bureaux de vote. Aux États-Unis, on parle de swing states, hein, ces États qui basculent d'un camp à un autre au fur et à mesure des élections présidentielles et permettent de l'emporter. Est-ce qu'il y a en France des swing circos, comme vous dites, des circonscriptions qui décident du résultat final ?
Alors, il y aurait deux manières de répondre. La première manière de répondre, c'est de dire que effectivement, à chaque élection législative, on a plusieurs dizaines de circonscriptions qui se jouent à moins de 1000 voix. C'est-à-dire que le vainqueur a quelques centaines de voix sur plusieurs dizaines de milliers d'avance sur le second. Et donc, dans cette perspective, on peut se dire qu'il existe des swing circos. C'est-à-dire que vous avez quelques circonscriptions qui permettent de faire ou défaire une majorité. D'autant plus dans cette période où ça se joue à peu de sièges. Mais la surprise qu'on a eue, c'est de voir que ces swing circos, elles étaient en fait pas très stables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une circonscription qui, en 2017, se joue à quelques centaines de voix, et à l'élection suivante, le candidat la remporte dès le premier tour. Et donc, en fait, c'est une étrangeté qu'on a observée. Il est très difficile de repérer quelques circonscriptions sur lesquels concentrer les forces, parce que c'est comme ça que c'est venu, notamment aux élections législatives 2024. François Ruffin a parlé de ces swing circos sur lesquels concentrer les forces militantes. C'est assez difficile en réalité.
Oui, ça marche à une élection et pas la suivante.
Oui, en fait. Alors par contre, là où les partis, les états-majors peuvent cibler certaines circonscriptions, ce qu'on observe par exemple à l'élection de 2017, donc rappelons à l'élection de 2017, la coalition présidentielle fait 15% des inscrits mais remporte plus de 300 sièges. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de circonscriptions où, si on prend les résultats au présidentiel, la gauche ou le RN arrivait largement en tête, mais il y a eu une démobilisation très forte entre la présidentielle et les législatives. Et donc, là où les partis pourraient centrer leurs efforts sur certaines circonscriptions, c'est celle-là, celle où il y a eu un score très important au présidentiel, par exemple, pour un parti, et où il y a un risque de démobilisation qui ferait gagner la coalition présidentielle ou LR, puisque c'est des électorats plus aisés et donc qui se mobilisent beaucoup, beaucoup plus que les électorats les plus pauvres.
Qui, effectivement, votent moins et s'abstiennent davantage par la même occasion. Puisqu'on parle des législatives en 2024 suite à la dissolution, si ce ne sont pas les classes populaires qui ont placé le Rassemblement national en tête, avec 10,7 millions de voix, hein, je le rappelle, comme on l'a souvent dit, ce sont les classes moyennes alors.
Alors oui, le RN est largement en tête dans une grosse classe moyenne. Dans ces bureaux de vote au niveau de vie intermédiaire, où là, on voit effectivement que le RN a une grosse avance.
Et les quartiers les plus riches, ils votent pour qui ? La coalition présidentielle d'abord, puis la gauche ?
Alors effectivement, coalition présidentielle, puis la gauche, et dans une moindre mesure, LR. Mais ce qui permet aujourd'hui à LR d'avoir une présence nationale, c'est vraiment ses bureaux de vote les plus aisés.
Et les quartiers les plus pauvres votent d'abord pour la gauche, le NFP, aux dernières élections, ensuite pour le RN, et à la fin seulement pour la coalition présidentielle.
Effectivement, si je peux donner quelques chiffres, j'en ai pas donné beaucoup, donc si on regarde les bureaux de vote les plus pauvres, d'abord ils se sont abstenus à hauteur de 46%, mais lorsqu'ils se sont déplacés, c'est 24% pour le NFP, 16% pour le Rassemblement National et ses alliés de l'UDR, et ensuite seulement la coalition présidentielle avec 5% des inscrits.
Mais j'imagine aussi que l'implantation géographique, le territoire, ça joue aussi, pas seulement les revenus, pas seulement le niveau de vie. Quand on est dans une grande métropole, par exemple, on va voter différemment de quand on vit dans un petit village.
Alors c'est vrai pour partie, mais là encore on voit par exemple, si vous prenez les plus grandes communes, ce qui arrive en tête c'est le NFP, c'est vrai. Et ensuite, plus on va vers la cour, on s'éloigne de la commune principale de l'agglomération, plus on vote pour le RN. Dans le nord et dans le sud de la France, dans le sud-est de la France. En revanche, dans l'ouest de la France, plus on s'éloigne de la commune principale de l'agglomération, plus on va voter pour la coalition présidentielle. Donc, vous avez l'ouest de la France qui, quand même, reste à, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, des digues assez fortes aux eaux bleues marines.
Et la victoire du Rassemblement national aux prochaines législatives, si elle a lieu, elle reposera, d'après vous, sur les plus modestes ou sur les plus aisés qui, dans les duels où les coalitions macronistes seraient absentes, voteraient RN plutôt qu'à gauche ?
Alors, c'est très difficile de faire des prévisions. Quand on a regardé certains articles qui étaient de politistes, hein, pas seulement d'éditorialistes ou vraiment de chercheurs en sciences politiques, au lendemain des élections de 2022, expliquer que le Front républicain était mort. Ce n'est pas du tout ce qu'on a observé deux ans plus tard. En 2024, vous avez des candidats RN qui, au premier tour, faisaient 40-45% des suffrages exprimés et qui se retrouvent battus au second tour par des candidats qui faisaient 20-25% des suffrages exprimés. Donc, si on avait pris pour référence 2022, en fait, c'est vrai que le Rassemblement national aurait dû gagner. Mais en fait, les électeurs ont réagi différemment, il y a une hausse de la participation, et tout dépend de la manière dont s'organisera la campagne. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les partis de gauche ont plus de mal à se faire le réceptacle des voix des partis dits républicains, c'est-à-dire des partis hors extrême droite.
Merci Youssef Swidi. Je renvoie à la lecture de votre nouvelle cartographie électorale de la France. C'est paru chez Textuel. Ça paraît quand même assez indispensable hein, pour analyser le paysage politique actuel.
Merci beaucoup. Et on a essayé de faire plein d'infographies assez faciles à lire, plein de cartes. Et donc, c'est avec Thomas Van Der Scher.
Merci encore.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 9h pour la suite. Passez une excellente journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera Face à Philippe Devilliers, animé par Elliot Deval. Bonjour Elliot, quel est le programme ?
Bonjour Frédéric. Eh bien, au programme de Face à Philippe Devilliers, on va revenir bien évidemment sur les déclarations de Sébastien Lecornu. On parlera du contrôle d'exportation d'armes par l'Union européenne, du Mercosur, le procès de Marine Le Pen, la question de la fin de vie. Voilà ce vaste programme pour Face à Philippe Devilliers. C'est sur Europe 1. À tout de suite.
Merci Elliot, bonne émission.
Lidl, ça vaut le coup. Les émincés de porc origine France à 3,19€ au lieu de 3,99€, à mijoter à votre sauce, ça vaut délicieusement le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, les émincés de porc origine France sont à 3,19€ au lieu de 3,99€, moins 20%. Lidl, ça vaut le coup. 400 grammes, 7,98€ le kilo avec Lidl Plus, 9,98€ le kilo sans origine France. Offre valable jusqu'au 21 janvier.
Tu connais un réseau de serrurerie agréé, des portes blindées à prix léger ?
Point fort fiché, bien sûr.
Et pour bien commencer l'année, la TVA est offerte jusqu'au 27 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Groupe Assa Abloy.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 199€ par mois.
Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pensez à covoiturer.
T'es où ?
Je me suis perdu, trop d'offres.
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300€ de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
On peut penser que les voitures familiales sont réservées aux familles.